Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a déjà visités très richement ce matin, au travers des chants qui ont été choisis, au travers des textes qui ont été choisis, et au travers des prières des uns et des autres. On sentait, on vivait vraiment l'onction du Seigneur dans toutes ces choses-là. Et nos cœurs sont vraiment débordants de reconnaissance pour ce privilège que nous avons d'appartenir à Dieu, d'appartenir à Dieu. Il y a plusieurs passages dans ce qu'on a lu qui m'ont interpellé, et il y a un particulièrement, je ne saurais pas citer exactement, mais je paraphrase, c'est-à-dire, quand je regarde quand je considère la puissance de Dieu au travers de toute sa création, au travers de toutes ces créatures. Vraiment, moi en tant qu'être humain, qu'est-ce que je représente, franchement, pour que Dieu s'occupe de moi? Qu'est-ce que je représente? Qu'est-ce que je suis vraiment pour que Dieu s'occupe de moi? Et je bénis vraiment le Seigneur en ce qui me concerne personnellement, parce que il a commencé à s'occuper de moi à l'époque où, jeune homme d'une vingtaine d'années, je croyais que j'avais tout pour y arriver moi-même. Et je voulais pas qu'on vienne me casser les pieds en me parlant de Dieu. Parce que, à tous mes copains qui, à 19, 20 ans, ont découvert les affaires de Dieu, je leur disais, moi, Dieu, je le connaissais depuis le berceau. J'ai été baptisé quand j'étais âgé de 2 mois. Et avant même que j'entre en CP, je servais déjà la messe. Donc, qu'est-ce que vous, qui faisiez les 100 coups il y a encore quelques années, qu'est-ce que vous allez m'apprendre maintenant qu'on a 18, 20 ans? Je suis passé par là avant vous. Et vous, les attardés qui débarquez, vous commencez à venir me la raconter. Mais Dieu est infiniment bon. Pendant que je refusais qu'on vienne me parler de lui, lui s'occupait de moi. Et vous connaissez tous, sans y avoir été, mais vous connaissez ma chère Afrique. Moi, je suis du Congo, Congo-Kinshasa. Et plusieurs fois, sans que quand j'étais au pays, je ne m'étais jamais occupé de politique. Et j'ai jamais eu de problèmes de délinquance ou autre, non, non. J'étais un enfant très rangé. Mes bêtises, je les faisais à huis clos à la maison, quoi. Bon, la fessée passait par là, mais ça, c'était intramuros. Donc, à l'extérieur, non, j'ai jamais eu de problème. Mais notre Afrique est ce qu'elle est. À plusieurs reprises, je me suis retrouvé devant une dizaine, une vingtaine de soldats pointant les armes sur moi, prêt à tirer, sans aucune raison valable. Bon, on va pas entrer dans les détails, mais je suis sorti de là miraculeusement par la main de Dieu. Par la main de Dieu. Sinon, c'était terminé, sans que j'aie rien fait. Et avec du recul, je me dis oui, il est vraiment bon. Parce que nous avons tendance à dire, ah oui, tu m'as dit ça, tu m'as fait ça, je fais ça, je dis ça. Et si Dieu agissait comme ça, bonjour les dégâts. Non, non, il m'aimait, il s'occupait de moi quand je voulais pas qu'on vienne me casser les pieds avec son nom. Actuellement, dans notre cher et beau pays, la patrie des droits de l'homme, nous sommes dans une période très particulière. C'est-à-dire, le pays, comme tous les autres pays, est frappé par la crise. Les difficultés sont vraiment énormes. Les tensions, le désespoir est vraiment très élevé. Et heureusement pour nous, il y a des hommes et des femmes qui se sont levés pour nous annoncer chacun ou chacune qu'ils ont la solution, qu'ils ont la recette miracle. Bon, on se demande toujours, mais depuis le temps Qu'est-ce qu'ils attendaient? Mais c'est pas grave, tant mieux pour nous. Enfin, la recette miracle est là. D'ici quelques mois, tous nos problèmes vont être réglés. Tous nos problèmes vont être réglés. Tous nos problèmes vont être réglés. Et les uns et les autres apportent la bonne nouvelle, mais dès que l'un ou l'une apporte la bonne nouvelle, il y a les autres qui se dépêchent de casser que c'est pas ça, c'est pas cette parole-là, c'est celle-ci. Chacun est là pour nous fixer le cap, comme on dit. Je me rappelle même il y a quelques années, un homme politique avait publié un livre dont le titre c'était « C'est ici le chemin ». Ah ça c'est vraiment merveilleux. « C'est ici le chemin ». Et on a suivi aussi le chemin avec lui. Bon. Et nous, nous avons le Dieu Tout-Puissant qui fixe le cap pour ses enfants. Et ça c'est le vrai cap. C'est ce cap-là que nous voulons suivre. C'est ce plan-là que nous voulons suivre. Dieu a un plan de sortie de crise pour nous, pour nos vies, pour nos enfants, pour l'humanité. Dieu a un plan de sortie de crise. Et ce plan-là n'est pas un plan de circonstance. C'est un plan permanent qui est là pour produire ses fruits en permanence, pourvu que on accepte de suivre ce plan-là. Nous allons lire dans Luc 5, des versets 1 à 11. Je précise que toutes les lectures que nous ferons, moi je le fais dans la version Bible français courant, donc ne soyez pas choqués si vous ne trouvez pas exactement les mêmes mots dans les différentes versions que vous avez. Donc moi c'est en français courant. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jeterai les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble ils remplirent les deux barques de tant de poissons qu'elle s'enfonçait dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, ce sont des hommes que tu prendras. » Dans votre verset, vous avez sûrement « Désormais tu seras pêcheur d'hommes » ou « je te ferai pêcheur d'hommes ». Ils ramenèrent alors leur barque à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus. Donc, nous voyons la situation qui est face à nous. Toute la nuit, des pêcheurs ont trimé, ils ont bossé toute la nuit sans rien prendre. Donc nous pouvons imaginer leur état de découragement, voire même d'énervement. Je crois qu'il fallait pas venir les titiller. Il fallait pas venir les titiller. Parce qu'ils faisaient sûrement leurs calculs, leurs projections dans la tête. Mais à la maison, j'allais dire le frigidaire est vide. Non, il n'y en avait pas à l'époque. Mais à la maison, dans la réserve, il n'y a plus rien. Et puis, avec tous les enfants que j'ai, quand je dis tous les enfants que j'ai, c'est pas comme aujourd'hui, 2-3 enfants. Non, tout un bataillon que j'ai. Mais qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Bon, il n'y avait pas EDF ni le gaz à payer, mais il y avait les besoins de l'époque. Donc, nous voyons le décor, nous voyons la situation. Ah, donc, il fallait pas venir les titiller. Et puis, Jésus qui arrive, qui donne le cap. Qui donne le cap. C'est ici le chemin. Voilà, c'est lui qui peut dire ça. C'est ici le chemin. Parce que d'ailleurs, c'est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur arrive et fixe le cap. D'accord, tu as trimé toute la nuit. D'accord, tu en as bavé toute ta vie. D'accord, tu as vécu des misères pendant ton enfance. D'accord, tu as été malheureux ou malheureuse dans ton mariage. D'accord, tu as subi des injustices à ton travail et aujourd'hui tu te retrouves jeté, licencié, sans indemnité, sans droit aux allocations de chômage. Le Seigneur dit oui, la situation est noire, je le vois, je le sais, mais je suis là, je fixe le cap. Maintenant, je te dis, avance plus loin, là où l'eau est profonde, et jette tes filets pour pêcher. Voilà le cap que nous fixe le Seigneur ce matin pour chacune de nos vies, mais aussi pour la vie de notre Église. Vous avez fait jusqu'ici le chemin jusqu'au stade où vous en êtes aujourd'hui, mais maintenant, je vous dis, c'est le moment de vous lever et d'aller plus loin. Avance plus loin. Avance plus loin là où l'eau est profonde. Avance plus loin. Quitte ton confort actuel. Quitte ton contentement actuel. Arrête de te morfondre sur toi-même. Arrête de ressasser tes soucis. Arrête de murmurer. Arrête de râler. Avance plus loin, là où l'eau est profonde. Le Seigneur fixe le cap. S'il t'envoie là, il sait qu'il y a des vagues. Les vagues sont plus hautes. Que le courant est plus fort. Que la tempête, quand elle se lève, elle est plus ravageuse. Mais c'est lui qui dit, avance en eau profonde. Va plus loin, avance en eau profonde. Donc le Seigneur fixe le cap. Écoutons ce qu'il nous dit. Regardons l'endroit où il veut que nous allions. Notre Église est à un tournant de son histoire et à un tournant de sa vie. Et le Seigneur veut que nous prenions ce tournant avec lui. Donc, ne regardons pas aux difficultés, mais regardons le tournant, le virage que le Seigneur veut nous faire prendre. Et avançons en eau profonde. Avançons en eau profonde et jetons là où il veut que nous jetions les filets. Jetons là les filets et nous pêcherons des âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et nous pêcherons les âmes qui sont condamnés si la parole ne leur est pas apportée. Donc le Seigneur fixe le cap, mais comment réagir face au cap fixé par le Seigneur? Nous avons la réponse que nous donne l'attitude de Pierre. Oui, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Oui, nous en avons bavé. Oui, 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 on peut multiplier les oui. Mais nous n'allons pas nous arrêter à ces oui, on a vécu ceci, oui, nous avons subi ceci. Seigneur, puisque tu me dis de le faire, c'est tout ce qui compte. Puisque tu me dis de le faire, je jetterai le filet. Je me demande, comment se fait-il qu'on n'ait pas pris des poissons alors qu'on a trimé toute la nuit? Mais qu'importe, le Seigneur a dit, avance en eau profonde, jette le filet. Puisque c'est la parole de Dieu qui le dit, on va y aller. On va y aller. C'est son affaire. C'est lui qui a conçu le plan, donc il a les moyens du plan. C'est lui qui a conçu le plan. Donc, puisque le Seigneur le dit, puisque le Seigneur donne le cap, mon devoir, mon attitude, c'est d'entrer dans le plan du Seigneur, d'aller là où le Seigneur veut me conduire. Et pour pouvoir être dans le plan du Seigneur, pour pouvoir aller jusque dans les eaux profondes, pour pouvoir y aller avec assurance et le cœur en paix, le Seigneur nous appelle, nous invite à nous poser la question suivante. Qu'est-ce qui occupe la première place dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a en première place dans ma vie? Parce que, d'accord, c'est bien, j'ai compris, j'ai entendu. Le Seigneur a fixé le cap. Il a montré les eaux profondes. Il a indiqué là où il nous attend, là où il veut que nous allions. Mais avant d'y aller, examinons-nous. Donc, le premier examen que nous allons passer, ça va être la radiographie. C'est juste à côté. Voilà. Donc, nous allons faire une radio de nos cœurs. Nous allons faire une radio de nos cœurs. Et pour cela, nous lisons dans Luc 18, versets 18 à 30. Un chef juif demanda à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de meurtre. Ne vole pas. Ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un. Respecte ton père et ta mère. » L'homme répondit, « J'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, « Il te manque encore une chose. » Il te manque encore une chose. Donc, nous voyons le jeune homme, il était fier de lui, il était content de lui. J'ai obéi à tous les commandements depuis ma jeunesse. Donc, je suis apte à entrer dans le plan du Seigneur. Je suis prêt pour aller dans les eaux profondes. Mais le Seigneur, qui voit au fin fond de cœur, qui va jusque dans les moindres méandres, dans le moindre recoin, il voit et il donne son diagnostic au jeune homme. Il te manque une chose. Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Mais quand l'homme entendit ces mots, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, qu'il était triste, et dit, qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, mais qui donc peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci Seigneur. Ce qui est impossible à Dieu, aux hommes, pardon, Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Seigneur nous appelle à aller en eau profonde. Mais qu'est-ce qui dans notre vie prend la première place? Pour ce jeune homme, c'était sa richesse. Il avait d'immenses richesses. Il était attaché à ses richesses. Mais le Seigneur lui dit, aspire plutôt aux richesses célestes qui ne périssent pas. Détache-toi de tes richesses terrestres qui sont vouées à périr, à être rongées. Recherche les richesses divines, les richesses célestes. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Est-ce que ce matin nous avons le désir de répondre au Seigneur et d'aller dans les eaux profondes? Ah, il n'y a pas beaucoup qui ont ce désir-là. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui ont le désir d'aller en eau profonde pour jeter les filets? Ah, ça augmente. Le Seigneur nous encourage vivement d'aller dans les eaux profondes. Il le dit dans sa parole, il y a un type de nourriture pour chaque étape de la vie, et de la vie humaine, et il en est de même dans la vie spirituelle. Je ne sais pas, parmi les gens qui sont là, peut-être, je ne sais pas, Nicolas, tu as toujours ton biberon? Non. Moussikanda, non? Non, voilà. Je crois que nous tous, nous nous sommes déjà débarrassés de notre biberon. Maintenant, un bon steak frites, un bon cassoulet. Ah, je vois des têtes qui... Voilà. Donc, il y a une évolution au niveau de la nourriture spirituelle et il y a aussi une évolution au niveau de l'engagement. Le Seigneur nous appelle à aller plus loin. À aller plus loin. Ne nous contentons plus de rester sur le rivage. Non, il nous dit d'aller en eau profonde. Nous savons bien que les éléments, quand ils se déchaînent, ils sont plus violents là-bas, mais il sera là avec nous, dans les eaux profondes. Et pourquoi il nous dit d'aller dans les eaux profondes? Parce qu'il sait que c'est là que la pêche va être plus que fructueuse, elle va être miraculeuse. Donc, examinons-nous. Qu'est-ce qui nous attache plus que notre attachement au Seigneur? Qu'est-ce qui a le plus d'importance dans notre cœur, dans notre vie? Est-ce que c'est notre compte en banque? Est-ce que c'est notre voiture Ferrari? Qu'est-ce qui nous attache le plus, qui prend plus de place que le Seigneur dans notre vie? Est-ce que c'est notre travail? Est-ce que ce sont nos soucis familiaux? Est-ce que ce sont nos préoccupations matérielles? Le Seigneur prend plaisir à celui qui lui donne la première place dans sa vie, dans son cœur. D'ailleurs, dans Apocalypse, nous lisons bien que il y a des églises auxquelles il fait un reproche. C'est que ces églises ont perdu leur premier amour. Et le Seigneur le dit bien, tu choisis où tu es tout feu, tout flamme pour moi, tu es bouillant, et on continue ensemble. Ou tu es froid, les choses sont claires. Mais je ne veux pas de tiède. Le Seigneur ne veut pas de tiède. Il veut des gens tout feu, tout flamme. Donc, examinons-nous chacun individuellement et voyons ce qui occupe la première place dans notre cœur. À quelle chose, à quelle occupation, à quelle personne, à quelle préoccupation avons-nous donné la place qui revient de plein droit au Seigneur? Oui, tu as obéi à tous les commandements depuis ta jeunesse. C'est une bonne chose, mais il te manque une chose. Tu es trop attaché à tes richesses. Voilà ce que le Seigneur dit à ce jeune homme. Tu es trop attaché à tes richesses. Donc, fais marche arrière. Détache-toi de tes richesses et aspire aux richesses célestes qui ne périssent pas. Amen. Aspirons à ces richesses célestes. Voilà ce qu'a donné l'examen, le premier examen, la radiographie de notre cœur. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Il laisse la radiographie de côté, il passe au scanner, parce que ça scrute encore plus profondément. Et nous lisons dans Matthieu 14, versets 22 à 23. Nous n'allons pas tout lire, je vais lire juste les versets que j'ai soulignés. Mais je résume, c'est-à-dire, les disciples étaient dans la barque, et à un moment donné, ils voient une ombre qui est en train de marcher sur l'eau. On dirait une forme humaine. Et puis, la forme se précise de plus en plus, et tout de suite, panique à bord. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Et ils poussent des cris de frayeur. Mais Jésus, aussitôt, leur parla, je suis au verset 27, mais Jésus aussitôt leur parla. Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre prit alors la parole et dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Donc, quand nous avons lu notre texte de départ, il y a une chose que nous avons soulignée, c'est que le Seigneur a fixé le cap et Pierre a réagi en disant, puisque c'est toi qui le dis, je vais aller en eau profonde et jeter le filet. Donc voyez, l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous rassurer, pour nous donner confiance. Ici, les apôtres sont dans un moment de panique, mais dès qu'ils ont entendu la parole de Jésus, c'est le calme, la paix qui est revenue. Donc la parole de Dieu, c'est la source de notre paix. C'est la source de notre paix. Donc Pierre prit la parole et dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. »« Viens, » répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria, « Jésus, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ? Pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors des disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Voilà ce que révèle le scanner du cœur de Pierre. La foi qui n'est pas ferme, la foi qui manque d'assurance, la foi qui manque de fermeté, la foi qui n'est pas vraiment mise en action. Pourtant, il a dit au Seigneur, « Si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. » Le Seigneur a dit, « Viens. » Et les choses se sont déroulées selon la parole du Seigneur. Et tant que Pierre regardait à Jésus, ça baignait. Mais quand le vent s'est levé, il a détourné le regard de Jésus pour regarder au vent. Et là, c'était panique à bord. Il commençait à se noyer. Donc, quand le vent se lève dans la vie, quand nous irons dans les eaux profondes, quand les vents se leveront, quand les requins apparaîtront, quand le tsunami se déchaînera, ne regardons pas aux requins, ne regardons pas à la tempête, ne regardons pas au tsunami, gardons les yeux fixés sur le Seigneur. C'est lui le maître. Amen. Gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Dans nos difficultés financières, dans nos difficultés familiales, dans nos maladies, Gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Si Dieu a été infiniment bon pour prendre soin de moi dans mon pays d'origine, alors que je ne voulais pas entendre parler de lui, il envoyait ses messagers vers moi. Je ne voulais pas qu'ils viennent me casser les pieds, comme je disais à l'époque. Si, quand j'avais cette attitude-là, il a pris soin de moi. Il a pris soin de moi. Si je suis là présent devant vous aujourd'hui, parce que le Seigneur n'a pas voulu que je sois exécuté, comme ça a failli se faire. Et si il a été aussi bon envers moi qui étais rebelle, combien à plus forte raison ne sera-t-il pas bon envers nous qui aujourd'hui avons accepté qu'il soit notre Père. Donc, dans les difficultés, quelles qu'elles soient, ne regardons pas aux difficultés, mais ayons les yeux fixés vers le Seigneur. Amen. Il a fixé le cap, les eaux profondes, pour la vie de chacun de nous. Notre vie individuelle, notre vie maritale, notre vie familiale, notre vie professionnelle, la vie de notre Église. Il nous dit, j'ai fixé le cap, c'est ici le chemin, allez dans les eaux profondes. Mais examinez-vous, il te manque une chose, laquelle? Règle cela à la lumière de ma parole, avec l'aide de mon esprit. Tu as tendance à avoir le doute, tu as tendance à paniquer. Je suis là, dit le Seigneur. Je ne te demande pas d'avoir la foi de la taille d'un melon ou d'une pastèque. Non, juste un petit grain de moutarde, ça me suffit. Moi, j'en ferai quelque chose et ça sera plus grand que la pastèque ou le melon. Apporte-moi cette petite foi, fais-moi confiance, laisse mon esprit te remplir et te conduire, tu verras ta foi grandir. Tu verras ta foi grandir. Tu as ma parole pour nourrir ta foi. Nourris ta foi avec ma parole. Tu as la louange pour nourrir ta foi. Alors, nourris ta foi par la louange. Donc, la foi. Régler la question de la foi. 1 troisième examen, après la radio, le scanner, le Seigneur scrute notre cœur avec l'IRM. Donc c'est un examen encore plus profond, parce que le cœur de l'homme est tortueux, l'esprit de l'homme est tordu. Donc le Seigneur met en œuvre tout l'appareillage nécessaire pour scruter nos cœurs. Donc, il nous demande, quels sont mes enfants, quelles sont vos motivations? Quelles sont vos motivations quand vous me servez? Quelles sont vos motivations? Quand vous me louez, quelles sont vos motivations? Et nous lisons dans Matthieu 20, des versets 20 à 28. Alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses deux fils. Elle s'inclina devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu ? » lui dit Jésus. Et elle lui répondit, « Promets-moi que mes deux fils, que voici, siégeront l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. » Rien que ça, hein? Rien que ça. Promets-moi que mes deux fils que voici siégeront l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras le roi. Vous ne savez pas ce que vous demandez, répondit Jésus. Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire? Nous le pouvons, lui répondirent-ils. Vous boirez en effet ma coupe, leur dit Jésus, mais ce n'est pas à moi à décider qui siégera à ma droite et à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui mon Père les a préparées. Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre les deux frères. Alors Jésus les appela tous et dit, « Vous savez que les chefs de peuple les commandent en maître et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour rançon pour libérer une multitude de gens. » Je voudrais vraiment que nous réfléchissions à ce passage que nous venons de lire. Donc, voyez cette demande qui est faite au Seigneur. Donc, que le Seigneur décide de notre vivant, la place que nous occuperons là-haut. On a une amie, c'est une sœur haïtienne, j'ai souvent l'habitude de lui dire, « Ah, mais tu sais, Marie-Clotilde, nos deux places sont réservées là-haut, hein. Ton fauteuil est collé au mien, donc là-haut, nous serons côte à côte. » Il m'a dit, « Ah non, Jean-Marie, je te supporte déjà assez ici, hein. Alors, non, le Seigneur ne va pas me faire ça là-haut. Non. » Bon, mais nous voyons ici ce que peut être la demande d'un cœur humain. Bon, on a vu tout de suite la réaction des disciples. Bon, ils en ont voulu au fils de Zébédée et à leur mère. Mais Jésus, il voit les cœurs. Bon, il a passé le cœur des fils de Zébédée à l'IRM et il a vu qu'il y avait une souffrance intense dans le cœur. Il y avait une blessure intense. Il y avait une blessure intense. Vous savez que les chefs de peuple les commandent en maître et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Donc c'était des gens qui étaient brimés, des gens qui étaient piétinés, des gens qui étaient humiliés, qui étaient profondément blessés. Donc voilà où peuvent nous conduire les blessures non guéries du cœur. Le Seigneur leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et ailleurs dans sa parole, il est clairement dit que vous ne savez pas comment prier, vous ne savez pas comment demander. Donc le Saint-Esprit est là pour nous aider à prier. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à louer. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à demander. Donc nous voyons ici, Jésus souligne un fait important, c'est les blessures du cœur peuvent nous faire beaucoup de tort en dehors de la souffrance que cela représente, et elles peuvent aussi nous faire du tort dans notre relation avec Dieu. D'où un devoir impérieux que nous avons, c'est de déposer nos blessures aux pieds de Jésus pour qu'il les guérisse. Déposons nos blessures aux pieds de Jésus pour qu'il les guérisse. Parce que les blessures font naître l'amertume dans le cœur. Et l'amertume est un barrage dans la relation avec Dieu. L'amertume est un barrage dans la prière. L'amertume est un barrage pour la prière, pour la louange. Le psaume 147, verset 2, 3 nous disent, le Seigneur rebâtit Jérusalem, Jérusalem qui avait été détruite, la ville du roi. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il panse leurs blessures. Le Seigneur guérit les cœurs brisés. Amen. Le Seigneur guérit les cœurs brisés. Remettons-lui toutes nos blessures. Laissons-le pénétrer au fin fond de notre cœur pour poser son baume qui puisse calmer la douleur des blessures de nos cœurs, pour que nos cœurs soient libérés pour la pleine louange, pour la pleine communion avec notre Dieu. Amen. Et il y a quelque chose qui jusqu'ici ne m'a pas frappé, mais qui m'a frappé ces derniers temps, c'est que Jésus, quand il a commencé son ministère, il a commencé par se présenter comme celui qui vient guérir les cœurs. Nous le voyons dans Luc 4, 16, 21. Cela avait été annoncé dans Ésaïe, et quand il commence son ministère, il commence par souligner ce fait-là. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Le Seigneur a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Donc, confions au Seigneur le soin de notre cœur, la guérison de notre cœur. Il est impératif. On ne peut pas saisir pleinement les bénédictions de Dieu tant que notre cœur est blessé. On ne peut pas servir pleinement le Seigneur tant que notre cœur est blessé. On ne peut pas aller jusque dans les eaux profondes, jeter le filet tant que notre cœur est blessé. Donc, nos blessures que nous traînons depuis l'enfance, les blessures que nous avons connues dans notre jeunesse, nos blessures, nous, en tant que race qui a connu certaines oppressions dans l'histoire, nos blessures, nous, en tant que immigrés, confions-les au Seigneur. Nos blessures de la vie conjugale, de la vie professionnelle, même nos blessures au sein de l'Église. Notre Église n'est pas parfaite, notre pasteur n'est pas parfait, et je remercie le Seigneur pour ça. Parce que le jour où l'Église et le pasteur seront parfaits, j'aurai des soucis parce qu'il me faudra trouver une autre Église. Et si toute l'Église devienne parfaite avec des pasteurs parfaits, j'aurai plus d'Église. Ah ben, je serai jamais parfait. Donc, le Seigneur nous appelle à le laisser nous travailler chaque jour pour nous amener vers la perfection. Voilà la démarche. Nous laisser travailler chaque jour pour aller vers la perfection. Mais le jour où nous serons parfaits, ça sera quand il reviendra dans la gloire pour nous faire entrer dans la gloire céleste. Donc, nos blessures, laissons le Seigneur les panser et les guérir. Amen. Donc, le Seigneur nous invite à aller dans les eaux profondes. Alors, en conclusion, après ces différents examens que nous venons de subir et que nous continuerons à subir tous les jours nous laisserons le Seigneur faire sa radiographie de notre cœur, faire le scanner de notre cœur, faire l'IRM de notre cœur. Et si c'est nécessaire, qu'il fasse une intervention chirurgicale. Parce que nous voulons vraiment qu'il règle une bonne fois pour toutes cette question du cœur. Parce que toute la vie que nous pouvons mener sera le reflet de l'état de notre cœur. Notre vie sera riche, notre vie spirituelle sera riche en fruits si le cœur est réparé par le Seigneur. Amen. Donc, en conclusion, qu'est-ce que le Seigneur désire? Qu'est-ce qu'il attend de nous pour que nous puissions aller avec lui dans les eaux profondes. En conclusion, il nous demande de devenir de véritables imitateurs de Christ. Devenir des véritables imitateurs de Christ. Et en conclusion, nous allons lire Philippiens 2, 5, 11. Je lis toujours en français courant. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer des forces légales de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et il s'est montré obéissant, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus est le Seigneur. Amen. Appliquons-nous chaque jour à devenir les imitateurs de Christ. Chaque jour, faisons le bilan de notre journée. À la fin de ma journée, en quoi j'ai été l'imitateur de Christ? En quoi je n'ai pas été l'imitateur de Christ? Faisons cela à la lumière de la parole de Dieu et que son esprit nous conduise vraiment à marcher en conformité avec sa parole, en ayant toujours le regard fixé sur Jésus. D'un côté pour à penser comme nous le chantons, pour penser, agir comme lui, et aussi pour ne pas regarder aux éléments, pour ne pas nous laisser déstabiliser par les éléments. Et louange, gloire et honneur à notre Dieu. Amen.